Cela fait 5 ans que Célestine Tourté, guide conférencière, conte aux touristes l'histoire de Rouen. 5 ans d'expérience qu'elle nous raconte ici dans cet entretien, enregistré dans la cathédrale de Rouen. 5 ans d'anecdotes, 5 ans de plaisir, où on parle également de tout ce qui a trait à l'accessibilité des monuments historiques, ouverts au public, et plein d'autres choses encore. Bonne écoute! Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Where is Brian. Aujourd'hui, nous allons suivre la guide avec toi, Célestine Tourté. Bonjour.
Bonjour à toi.
Et bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est toujours un plaisir de faire de nouvelles rencontres, de rencontrer de nouvelles personnes qui font tout pour promouvoir la Normandie au quotidien. Donc déjà, première question que je pose à tous mes invités. Where is Brian?
Alors, déjà, merci de ton invitation. Et where is Brian? Alors là, tout de suite, on est dans la cathédrale de Rouen. Dans un lieu extrêmement particulier que moi, j'ai l'habitude de tout le temps fréquenter. On est plus exactement, même si on va être extrêmement précis, on est dans le transept sud de la cathédrale. Attention, ça va aider beaucoup de monde, ça. En gros, on est à peu près au milieu sur le côté, dans un petit coin tranquille, parce que le temps ne nous permettait pas de le faire non plus dehors. Vous le savez peut-être pas, mais là, au moment où on enregistre, il pleut des cordes. Donc, c'est une solution idéale pour se rejoindre et parler ensemble aujourd'hui.
C'est d'ailleurs le plan original, on peut le dire, c'était l'être Saint-Maclou.
Ouais.
Effectivement, qui là, donc, se trouve plutôt en extérieur. Le temps, aujourd'hui, vous ne le voyez pas, mais je mettrai peut-être une petite photo tout à l'heure pour qu'en fait, l'auditeur se représente de ce qu'il en a été. Je la remettrai. Effectivement. Toute interview en extérieur est aujourd'hui rendue impossible, mais bon, on est en octobre et on est en Normandie et on avait besoin de pluie.
C'est ça, c'est normal en même temps, ça fait partie de la Normandie.
Ça fait partie de la Normandie et si tu sais que moi, quand on te dit que je suis de Normandie, on me fait « mais qu'est-ce que tu fous à promouvoir le patrimoine normand dans un lieu où il y a 63 jours d'ensoleillement par an ?» Mais justement, une de mes questions, c'est tu leur répondrais quoi à ces personnes? Parce que je l'entends souvent quand même.
Oui, c'est vrai. Et j'avoue que même moi, des fois, on en parle, hein, parce que quand on a des gens d'autres régions, c'est des questions qui nous viennent souvent, le climat, etc. Et en soi, oui, on n'a pas beaucoup d'ensoleillement. Par contre, on n'est pas les régions les plus pluvieuses.
Non.
Ça, déjà, il faut le dire. C'est-à-dire que oui, il pleut, mais ce n'est pas le plus gros souci. Et en même temps, je ne sais pas, nous, je pense que peut-être comme toi, on est habitués. Moi, j'ai toujours vécu en Normandie, donc j'avoue que ça ne me fait pas grand-chose. Et puis, on trouve notre bonheur ailleurs.
Mais justement, on y reviendra un peu sur ton parcours. Mais juste avant, dis-moi un peu plus sur l'histoire du lieu où on est, la cathédrale de Rouen. Ça t'évoque quoi rapidement? Quelle est l'histoire un peu de ce lieu?
Moi, je trouve que juste, si on voudrait faire très rapide, en fait, la cathédrale, ce qui est génial, c'est que c'est une sorte de livre sur l'histoire de Rouen depuis sa création. Parce que même si la cathédrale, évidemment, n'était pas là à sa création, si elle est ici, c'est parce qu'on se trouve à peu près à l'emplacement du forum romain, qui était au cœur de la ville romaine. Donc, c'est pas pour rien que la cathédrale a été construite ici. Donc, on est sur des terres. Là, on sait juste en dessous de nous, il y a des ruines, hein, il y a des trucs qu'on a déjà trouvés. Donc, on est vraiment au cœur de Rouen et qui a traversé tous les siècles. Déjà, rien qu'autour de nous, on a plusieurs siècles d'architecture. Hein. La cathédrale, c'est 4 siècles à peu près de construction, du 12e au 16e. Et puis, beaucoup de modifications, que ce soit au 19e siècle avec la flèche, donc on traverse encore. Et puis, bien entendu, toute la reconstruction de la Seconde Guerre mondiale. Donc finalement, la cathédrale, quand on parle d'ici, c'est même d'ailleurs parfois difficile de ne pas trop s'y attarder, parce qu'en fait, on pourrait quasiment évoquer presque toutes les grandes lignes de l'histoire de Rouen, en passant même, par exemple, par Jeanne d'Arc, parce qu'on se trouve juste à côté de la chapelle Jeanne d'Arc. On n'est pas très loin non plus des gisants des ducs de Normandie. Donc, on peut vraiment en fait évoquer tout. Et c'est pour ça que je trouve que la cathédrale, elle est vraiment centrale et impérative à voir.
Donc, naturellement, c'est la première chose qu'on va voir. C'est la première chose, d'ailleurs, qu'on demande aux gens, je pense. On arrive à Rouen, où se trouve la cathédrale, où des fois, moi aussi, j'ai déjà eu, où Jeanne d'Arc a-t-elle été brûlée, hein, par exemple.
C'est les deux grosses identités, quand même, effectivement, de la ville, ouais.
C'est les deux grosses identités. Te concernant, on va parler un peu plus de toi, bon, sans trop en dire. Tu es originaire de Louviers, non, c'est ça?
Exactement, ouais, dans l'Eure.
Et donc, actuellement, ça fait combien de temps que tu es guide à Rouen?
Ça fait, je suis guide, depuis que je suis diplômée, en fait. J'ai été diplômée en 2018.
Ouais.
Et le temps que je fasse ma carte officielle, c'est 2019. Mais dans tous les cas, j'étais déjà médiatrice. Enfin, c'est vraiment, même le sans carte de guide.
Médiatrice culturelle.
Médiatrice culturelle, voilà, même depuis, j'ai envie de dire, 2017, parce que j'ai commencé quand j'étais déjà en études, en master. Donc depuis, en fait, j'ai cessé d'enchaîner et de faire ce travail-là après.
J'imagine que tu as fait des études d'histoire.
Exactement. Ouais, j'ai fait une licence d'histoire et après, j'ai fait un master histoire, mais spécialisé, ça s'appelle valorisation du patrimoine, je crois, il change de nom tous les ans. Mais c'est spécialisé dans les métiers du patrimoine, en fait.
D'accord. Et t'as fait L au bac?
Non, j'ai fait ES.
Ah.
Pourquoi tout le monde pense que j'ai fait
ES? Ah, mais tu vois, même moi, ça m'a surpris. Ouais. J'ai débarqué avec mon vieux cliché. Bah, voilà.
Et ben non.
Je suis remballé. Une source qu'on nommera pas m'a expliqué quand j'ai préparé cette interview que quand tu étais enfant, genre par exemple à 8 ans, tu as fait une colonie de vacances sur le thème de l'égyptologie et t'écrivais déjà des hiéroglyphes toutes petites. Je confirme.
Je confirme, je sais très bien qui est ta source.
D'accord.
Et oui, donc comme tu le vois, c'est une histoire d'amour qui dure depuis très 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 longtemps avec l'histoire. Et au départ, effectivement, c'était beaucoup... En fait, l'Égypte, mais pas que, hein, c'était en fait beaucoup l'Antiquité, je dirais, de manière générale.
Ouais.
Mais l'Égypte était un peu mon point d'orgue, mais après, j'ai très vite été intéressée par...
Parce que justement, quand on s'intéresse à ton parcours, moi, au début, je me suis demandé, en fait, parce que j'aime bien un peu connaître un peu moi-même ceux à qui je parle, quoi. Je me suis demandé pourquoi... parce que je connais des gens qui sont devenus égyptologues, voilà, qui ont fait un doctorat pour faire purement de l'égyptologie. Et donc, toi, ça n'a pas été ton cas. C'est un choix...
Effectivement, alors c'est un choix que je me suis posé et qui s'est posé assez tardivement en réalité. Parce que même quand j'étais à la fin de ma licence, j'étais même plutôt partie pour faire un master d'archéologie.
Ouais.
J'étais vraiment, c'était l'archéo de manière générale qui me plaisait. Et si j'ai choisi en fait de partir vers la médiation, c'est parce que je me suis rendu compte que ce qu'il me fallait, c'était au-delà de juste apprendre des choses qui m'intéressent, c'était surtout de les transmettre. Et ça, je dirais que c'est vraiment en fait le truc le plus important. C'est que si je faisais ça, j'allais être dans un cercle restreint. Faut pas se leurrer, effectivement, quand on est chercheur, on peut écrire des publications, mais on est surtout lu par nos pairs.
Ouais.
Et c'est tout. Hein. Généralement, ça a du mal quand même à dépasser ce cadre-là, où c'est vraiment très ponctuel lors d'événements particuliers. Et moi, en fait, ce que j'ai toujours aimé depuis que je suis petite, c'est-à-dire que oui, je faisais des hiéroglyphes, et par contre, ce que j'adorais, c'était quand mes copines venaient à la maison, c'était aller leur expliquer, et mes frères et sœurs, etc. Et donc, ce que je voulais, c'était expliquer et transmettre. Donc,
mais c'était ça. Justement... Ah bah, tu viens de répondre à moitié à ma question suivante, c'est parfait. J'espère que ça ne va pas durer comme ça toute l'interview, sinon je vais finir par avoir des problèmes en termes de durée. J'allais te demander, mais peut-être que tu peux développer davantage du coup, d'où te vient vraiment cette passion de transmettre en fait quelque chose aux gens, parce que tu l'as très bien dit, mais la question s'est posée sur moi-même pour d'autres sujets relatifs à l'histoire. T'aurais très bien pu te terrer dans un endroit où tu aurais pu et parler à tes pairs et écrire des rapports toute la journée qui seraient lus par les comités régionaux du patrimoine d'autres. Mais tu n'as pas fait ce choix-là. Tu as choisi de faire partager ton savoir. Mais alors, ça t'est venu comment vraiment cette idée? C'est d'instinct? C'est venu comme ça ou ça a été un cheminement?
Je dirais qu'il y a forcément un cheminement parce que tout est toujours cheminement. On évolue forcément. Mais déjà parce que c'est une passion déjà qui s'est jamais tarie, qui est toujours restée intense. Donc déjà, ça, c'est important parce qu'on peut avoir des passions qui voilà, nous passionnent, mais on se dit, ouais, on a envie de les garder pour soi. Il y a des choses, moi, il y a plein de choses qui m'intéressent. Hein, je ne suis pas intéressée que par l'histoire, mais il y a plein de sujets que j'aime bien garder pour moi. Et en fait, l'histoire, moi, ce qui me paraissait hyper important, c'est que depuis que je suis petite, en fait, je trouve que l'histoire nous permet de comprendre le monde. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis intéressée à ça. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, je voulais comprendre ce qui m'entourait. Je voulais comprendre pourquoi on est là, pourquoi on a ce pays-là, pourquoi on a ces bâtiments-là dans la rue, pourquoi il y a tout ça, pourquoi ma rue, elle s'appelle comme ça. Je veux dire, c'est des questions toutes bêtes, mais qui m'ont toujours passionnée. Et à force que je découvrais l'explication et que je comprenais, je me disais, oui, mais ça, il faut le dire aux autres, parce que je voyais bien qu'autour de moi, tout le monde n'avait pas forcément la curiosité de faire le pas, d'aller chercher l'information et qu'il y avait peut-être les moyens même disponibles pour le faire aussi, tu vois, de temps, intellectuel, etc. Et bah moi, finalement, je me rendais compte que ma sœur, qui avait beau dire, par exemple, qu'elle s'en fichait de l'histoire, mais quand on se posait et que je lui racontais un truc, j'en sais rien, sur la Seconde Guerre mondiale, et bah là, tout d'un coup, elle me disait, non, mais en fait, c'est extrêmement passionnant, pourquoi je ne le savais pas, pourquoi on ne nous l'apprend pas, ou pourquoi je ne suis pas allée le chercher. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais en fait, les gens s'intéressent. Mais c'est juste que les gens ne font pas toujours peut-être chercher l'information. Et il y a sûrement des choses qui ne les intéressent peut-être pas d'prime abord, mais si on les amène avec un bon point de vue, et ben ça va les intéresser, ils vont comprendre pourquoi c'est pertinent. Et du coup, c'est pour ça que quand j'ai fait mes études, j'avais un peu ça dans le coin de la tête en me disant, voilà, qu'est-ce que je fais. Et je me suis dit, ok, je pars dans cette voie donc, de ce master qui était quand même assez généraliste. C'est-à-dire qu'il n'était pas guide conférencier, je le précise. Hein. C'était vraiment patrimoine, c'est-à-dire qu'on allait aborder plein de choses. Mais déjà, je me suis dit, ça peut me permettre de travailler dans les musées. Moi, je trouvais que l'institution était intéressante. Et puis, en fait, j'ai fait un stage en première année. On avait un stage de 3 mois minimum, je crois.
Première année de fac.
Première année de master. Il y avait un stage et c'est pour ça qu'en fait, je me disais, bon, bah, dans tous les cas, au pire, il y a ce master, qui est un master qui était semi-professionnalisant, en gros. On allait avoir beaucoup d'intervenants pros, des stages. Et je me suis dit, bon, bah, peut-être que ça va me permettre d'y voir plus clair. Et de toute façon, si je vois que ça ne me va pas, au pire, je peux rebifurquer en recherche, il n'y a pas de souci. Enfin, de toute façon, voilà, tu le sais bien, c'est mobile. Hein. Donc, je me suis dit, allez, je tente. J'ai fait mon stage au Musée national de l'éducation à Rouen. C'était en médiation culturelle et numérique, d'ailleurs. Et en fait, bah, j'ai adoré, quoi. J'ai fait des ateliers, des visites pour les enfants, pour les grands et tout. Et je me suis dit, bah, en fait, ouais, ça, je kiffe et c'est ça que je veux faire.
Pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas le Musée national de l'éducation, tu le définirais comment ?
Eh ben, c'est un musée qui, effectivement, n'est pas aussi connu qu'il devrait être, parce que c'est quand même un musée national. D'ailleurs, une seule qui n'est pas à Paris, hein, il est à Rouen, c'est quand même faut le noter. Et c'est un musée qui avait été créé par Jules Ferry pour promouvoir, en fait, l'école. Alors, évidemment, à l'époque, l'école, la Troisième République, surtout, mais qui est toujours restée, et en fait, qui a vraiment un énorme fonds de patrimoine. Mais qui est sur l'éducation, attention, c'est-à-dire que c'est pas le musée de l'école, simplement. L'éducation, ça prend plein d'autres formes. C'est aussi le jeu, notamment. On a beaucoup de choses autour du jeu, du quotidien des enfants. Et voilà, du coup, c'est un musée qui est pas très grand, qui est dans en plus un bâtiment du 15e, enfin, là, une vieille maison rouennaise. C'était déjà le mieux et super. Et les collections sont assez diverses. Et en plus, pour avoir été souvent dans les réserves, je peux vous dire qu'il y a des trésors là-dedans.
En fait, moi, j'avais vraiment une question que je voulais vraiment te poser à toi, mais aussi à d'autres personnes qui peuvent être historiens ou historiennes. T'as déjà, encore une fois, à moitié répondu, je te remercie. Mais en fait, quel est le rapport, tu penses, des gens à l'histoire en général ? Je vais développer, en fait, ma question. Il apparaît que, avant Wikipédia qui a été créé en 2001 et qui reste, même s'il y a plein d'autres sources, mais souvent on a tendance à l'oublier, qui a été créé en 2001 en français et qui reste la source majeure d'obtention de savoir qu'on aime ou non, c'est un fait. Et avant Wikipédia, on avait Encarta, les CD ou du temps de ma mère, des encyclopédies sur chaque époque ou sur chaque domaine scientifique quand on parlait du domaine scientifique. Moi, ce que je voulais savoir, c'est mon opinion, mais j'ai l'impression que plus il est simple de chercher du savoir, qu'il soit historique ou scientifique, plus il est simple de chercher du savoir, plus on a l'impression que les gens ont tendance à s'en distancier un peu par le flux d'informations permanent qui arrive en permanence à nos oreilles, à nos yeux. T'en penses quoi ?
Bah, c'est intéressant ce que tu soulèves. Parce que, enfin, honnêtement, de toute façon, il n'y a pas de réponse noire et blanc à cette question, mais en soi, c'est vrai qu'on a aujourd'hui énormément de choses, on peut avoir accès à beaucoup de choses, c'est une énorme chance qu'on a, je pense que ça, il y a plein de gens qui ne s'en rendent pas compte, comme tu l'as dit, hein, effectivement, avant, pour aller chercher certaines infos, il fallait faire des recherches, il fallait aller en bibliothèque.
Et qui coûtait très cher pour la plupart de tes
enquêtes. Exactement, qui pouvait coûter de l'argent, alors que maintenant, tout ton Google, tu tapes des mots-clés, tu peux tomber sur des sources, alors bien sûr, Wiki, mais même, il y a plein de la BNF, un portail en numérique en ligne, nous, les archives de Rouen aussi sont numérisées, donc franchement, depuis chez toi, tu peux voir tellement de choses et beaucoup de contenu aussi fait par des vulgarisateurs, ça c'est important, que ce soit à la télé ou sur Internet, mais je sais pas si je pourrais dire que les gens s'en distancient parce que à la fois j'ai quand même l'impression que même notre génération, etc., on connaît peut-être pas mal de choses, mais c'est peut-être pas les mêmes choses peut-être. Il y a peut-être des choses que les gens avant connaissaient mieux par rapport aussi à l'école, mais très honnêtement, enfin moi je sais pas si je vois mes grands-parents. J'ai pas l'impression que mes grands-parents, ils en savaient particulièrement beaucoup sur l'histoire, à part ce qu'ils avaient appris à l'école et peut-être glané au fil de leur vie. Et encore, enfin honnêtement, moi, ma grand-mère qui est dans le fin fond de l'Ardèche, elle n'est pas allée glaner beaucoup d'informations historiques dans sa vie. Mais, et d'ailleurs, je le vois aujourd'hui quand j'ai beaucoup de personnes âgées, moi, en visite guidée. Hein, c'est mon public majeur quand même, c'est des seniors. Et moi, je suis arrivée un peu justement en disant, tu vois, il y a un peu toujours cette idée que tu vois, les personnes un peu plus âgées, ils en savent peut-être plus parce qu'il y a toujours un côté, bah, il est vieux, peut-être que. Bah, en fait, non. En fait, des fois, au contraire, hein, moi, je suis très surprise de voir, en fait, revenir sur plein de bases. Parce qu'aussi, ce qu'ils faisaient à l'école était différent. C'est-à-dire que si leur histoire qu'ils faisaient était plus centrée sur la France, c'est vrai qu'ils disent souvent, ils apprenaient, oui, ils connaissaient département par cœur. Par contre, nous, aujourd'hui, on fait la mondialisation, on parle d'autres pays, on parle d'autres continents. Donc, on a peut-être par contre ce qui est en différence, c'est vraiment, je pense, l'ouverture, en fait, peut-être sur des sujets différents et même des sujets qui ne concernent pas forcément strictement notre histoire de France à nous. Mais après, dire, je ne sais pas si je pourrais dire vraiment que les gens sont distancés, je ne pense pas, parce que regarde, quand tu regardes le succès de choses sur Internet, je ne sais pas, je pense aux chaînes de Nota Bene, Manon Bril, des vulgarisateurs d'histoire, attends, ça fait quand même des millions de vues. Du coup, je ne pense pas qu'on peut dire que les gens ne sont pas intéressés. Mais par contre, c'est peut-être plus compliqué parfois de savoir si la source qu'on est parti chercher, est-ce qu'elle est bonne. Ça, c'est peut-être plus là-dedans où ça peut être compliqué encore.
C'est marrant, je discutais de ça ce matin sur totalement un autre sujet, sur comment on couvre en fait les sujets en fait, où il faut améliorer la prise en charge de personnes en situation de handicap. Mais dans le fond, finalement, c'est la même chose. On revient à le rôle des médias et de ceux qui transmettent du savoir via un média, qu'il soit journaliste, guide, est fondamental à cet égard. Pourquoi? Je t'avais déjà raconté cette anecdote, et j'ai fait un stage à l'office de tourisme de Rouen il y a 7 ans de ça. Et il y avait ce fameux débat greeter, APS, conférencier. Et je me suis dit, allez, moi j'aime bien, même si je sais à quoi je m'attends, j'aime bien, même si par contre on dit non mais Brian, c'est stupide ce que tu fais, mais moi j'aime bien me rendre compte de la réalité de ce qu'on me dit. Alors, je n'ai pas le savoir d'un conférencier, même si je suis passionné de ça. Et donc je vais à la rencontre d'un greeter, on fait donc un tour de Rouen, et ce greeter m'explique entre autres que Jeanne d'Arc est née à Rouen, et mais justement en fait, c'est à partir de ce moment-là. Donc, Jeanne d'Arc n'est pas née à Rouen, elle est née à Domrémy, en Lorraine. Oui, oui. Voilà, je préfère le dire, parce que sinon...
On sait jamais, on est toujours
faire un sentier sur Twitter, dont j'ai découvert la bienveillance récemment. Non, mais en fait, ça m'a ouvert les yeux sur, comme tu le dis, où les gens doivent découvrir, enfin, doivent connaître bien leurs sources et bien être orientés vers une source factuelle. C'est à partir de là que, d'un point de vue historique, j'ai commencé, parce qu'on était avant l'histoire de Donald Trump, des fake news, etc., avant que ça devienne quasiment institutionnel de raconter n'importe quoi sur n'importe quel réseau. Mais c'est là que j'ai commencé à comprendre, en fait, l'importance de transmettre son savoir à des sources fiables, et je pense pas que ça soit toujours, encore moins maintenant, chose aisée.
Et juste, c'est une chose triste, parce que juste ton greeter, je me dis, il aurait ouvert la page Wikipédia. Pour le coup, la page Wikipédia, elle est à jour. Hein. Jeanne d'Arc, ça aurait été écrit, Noémie. Et tu vois, comme quoi, tu dis, on a l'info à disposition. Oui. Et tu vois, pour le coup, ça ne veut pas dire que tout le monde va la chercher non plus. Et... Ouais.
Donc, on ne va pas la chercher dans le son.
On ne va pas la chercher dans le son, donc on peut toujours... Et maintenant, on peut peut-être fact-checker ce qu'on ne pouvait peut-être pas faire il y a 40 ans, où un guide disait un truc, on se disait peut-être, bon, bah oui, de toute façon, on y sait... Maintenant, on peut peut-être se dire, ah, tiens, si t'as un doute, tu peux peut-être aller chercher.
C'est ça. Mais c'est-à-dire que je vais parler de l'an 1975. Il y avait que 2 chaînes de télévision. Donc, pour fact-checker, on devait prendre ce que disaient les gens, en fait, pour argent comptant. Surtout qu'on sait qu'avec des années de recul sur les archives de l'INA, ils ont raconté beaucoup de conneries. En étant passé tranquillement et en étant fact-checké par personne, parce qu'ils étaient l'institution.
À l'école aussi, hein.
Ah oui.
Non, mais à l'école, tu dis, tu regardes des programmes de la Troisième République, des choses comme ça.
Ah oui.
Voilà, pareil, avant, on prenait l'école aussi comme argent comptant, de bah, à l'école, ce que ton maître ou ta maîtresse va te dire, bon, bah, c'est forcément la vérité. Voilà, quand aujourd'hui, on revoit les programmes, c'est aussi pour enlever des idéologies politiques qui se glissaient et qui avaient tendance à déformer un petit peu l'histoire.
Ben justement, parfaite transition. Aujourd'hui, l'éducation nationale, si tu as des choses à redire ou à conseiller, si tu trouves qu'on enseigne l'histoire de manière, j'ai pas envie de dire de manière trop simpliste, est-ce qu'on enseigne aujourd'hui l'histoire de manière, comme tu dis, maintenant globalisée ou trop nationale? Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que quand on fait du trop national, on fait un peu de politique et on est sur quelque chose d'un peu zémouriste ou zémourien.
Bah, de toute façon, avec l'histoire, on est d'accord qu'on marche toujours un peu sur des œufs, parce que, de toute façon, l'histoire est forcément aussi vecteur d'idées politiques. Donc, c'est sûr que l'école se devant, normalement, d'essayer de ne pas trop l'être, mais on peut pas, de toute façon, on ne peut pas dire l'histoire de manière neutre, hein, ça n'existe pas. Donc, forcément, il y a des parties prises, mais après, il faut savoir lesquelles on a envie de faire. Moi, actuellement, je ne suis pas prof d'histoire, donc je ne suis pas dans un collège où j'apprends l'histoire, donc je sais à peu près ce qui se fait en programme, mais bon, je vois ça de loin. Moi, en tout cas, ce que je vois et ce que quand même je pense qu'on peut être assez content, c'est qu'au niveau, par exemple, des collèges, lycées, on a des profs qui sont aujourd'hui des gens, en fait, qui sont comme moi, j'étais là. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, je pourrais. C'est-à-dire des gens avec qui j'étais à la fac, moi, etc. Enfin, moi, honnêtement, à la fac, hein, j'ai plutôt été content de mon éducation, de comment les profs m'ont transmis l'histoire. On apprend l'histoire de manière extrêmement critique. On apprend à être critique sur nos sources. J'ai quand même plutôt confiance, on va dire, en ces jeunes profs d'histoire formés, et moi j'en connais plusieurs hein, qui sont profs d'histoire, et en tout cas j'ai plutôt confiance sur leur façon d'amener les choses et d'être le plus critique possible. Mais après, c'est vrai que l'histoire, c'est pas évident. Alors aujourd'hui, il y a en plus maintenant une école primaire, hein, je sais pas si tu sais, mais maintenant il n'y a plus du tout les mots en fait, de, comme on avait. C'est-à-dire qu'ils font plus. Aujourd'hui, on fait de l'histoire, aujourd'hui, on fait de la géo, en fait, c'est des groupes, en fait, je sais plus comment ils appellent ça.
Moi, j'étais même pas au bon.
En fait, c'est des sortes de thématiques globales, et je crois que l'histoire, ça s'inscrit dans plusieurs. C'est-à-dire que c'est très transversal, ce qui est en même temps très bien, moi, je trouve. C'est peut-être pas facile pour les profs, je pense, d'avoir fait la transition, mais en soi, c'est très bien, parce que moi, en histoire, on faisait beaucoup de disciplines, justement, transversales entre l'histoire, la socio, la psycho, la géo et tout. Et en gros, ils sont sur des formats, par exemple, comprendre le monde. Et en fait, ça va te comprendre le monde, ça va comprendre des notions que nous, on a pu voir peut-être en géo, en histoire, etc. Et ils vont prendre en fait des thématiques comme ça un peu globales. T'as beaucoup de thématiques aussi citoyennes, par exemple, où ils reviennent sur l'histoire aussi de l'État, de la France, du vote, tu vois, d'aspects comme ça. Donc, c'est assez intéressant. Moi, après, voilà, je ne suis pas en école primaire, j'ai une sœur qui est instite. Hein,
ouais.
Je pense que ça permet aussi aux profs d'avoir peut-être un peu plus de liberté. Surtout quand on demandait peut-être à des profs qui n'avaient pas fait d'histoire, parce qu'évidemment on peut être aujourd'hui en site et ne pas avoir fait de licence d'histoire, hein. C'est pas obligatoire, hein. On peut avoir une licence de lettres, autre chose. Maintenant c'est des masters professionnalisés, donc c'est pas évident en même temps, et je trouve que du coup d'avoir des modules comme ça en fait qui sont un peu plus transversaux, ça permet de remettre tout dans leur contexte et de peut-être pas toujours diviser toutes les matières entre elles et montrer que finalement pour comprendre le monde, il faut comprendre son histoire, il faut comprendre son environnement, tu vois. Et c'est peut-être plus distancié, c'est pas la même histoire que nous on a appris, c'est pas celle qu'on a appris nos parents. Mais je pense que c'est l'approche en tout cas me paraît intéressante. Après, je la pratique pas au quotidien, je peux pas dire.
Oui, non, bien sûr. Mais je reviens sur ce fait-là, parce qu'aujourd'hui, on assiste à une instrumentalisation politique de pratiquement chaque fait historique, alors qu'on parle de faits. Je sais pas, moi, par exemple, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Napoléon, qu'il ait été raciste ou ça reste un grand personnage de l'histoire de France. Après, voilà, je sais bien sûr que ça se divise entre des personnes qui, notamment, on l'a vu Armand, avec l'histoire de la statue dont les Rouennais ont par ailleurs décidé assez massivement de la conserver sur la place de l'Hôtel de Ville, au lieu de, c'était quoi, c'était de mettre une statue de Gisèle Halimi.
Ouais, c'était ça, peut-être, ouais, une œuvre sociale.
Et donc, toi, tu te positionnes comment par rapport à ça? Comment est-ce qu'on doit donner une vision de l'histoire qui est atrocement factuelle et qui est donc, de fait, si on la juge par rapport aux valeurs de notre époque, est forcément complètement décalée, voire complètement raciste et xénophobe et totalement misogyne, que on a commencé à faire du droit des... On l'oublie, mais il faut le rappeler. On a commencé à vraiment faire du droit des femmes en France qu'à partir de 1944. Et avant, il y a eu 40 000 ans d'histoire de l'humanité. Comment tu te positionnes par rapport à l'histoire?
Alors, Moi, alors, juste avant que je l'oublie, je peux vous conseiller, parce que tu parlais au départ juste de l'instrumentalisation politique, et je sais qu'on, je crois qu'on en a déjà parlé ensemble, et tu l'avais vu. Moi, si je peux vous conseiller, c'est de regarder sur la chaîne de Manon Brain la vidéo qui s'appelle Zemmour contre l'histoire, où c'est justement tout un collectif d'historiens qui ont fait en fait un livre, mais ils se sont bien rendu compte qu'évidemment un livre allait être moins accessible, donc ils ont fait une vidéo où elle résume en fait tous les points, des choses en fait qui sont vraiment dans les écrits ou les discours de Zemmour, quelque chose qu'il a factuellement dit. Et ce sont des historiens à chaque fois spécialistes de la période ou du personnage en question,
se reprendre
et qui expliquent à quel point c'est faux et que c'est instrumentalisé. Donc déjà, si vous voulez aller voir ça, c'est très intéressant. Et pour revenir sur la vision de, par exemple, la statue, moi, ça m'a beaucoup passionné parce que déjà, ça s'inscrit dans un mouvement. Hein. C'est-à-dire que quand il a parlé de ça, c'est parce qu'aussi, là, on était dans un mouvement où il y avait beaucoup de questions autour du déboulonnement des statues. Et bah, forcément, moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Et je trouve que la place, effectivement, des statues comme des noms de rues, c'est quand même des choses très importantes aujourd'hui parce qu'on a tendance à penser que l'espace urbain n'est pas politique, mais il n'est, il l'a toujours été. Le choix d'un nom de rue n'est pas anodin, le choix de quelle statue on met n'est pas anodin. D'ailleurs, si on en a tellement, nous aussi, c'est parce qu'en France, au 19e, on a voulu en mettre partout pour célébrer, que ce soit Napoléon ou plus tard la République, le roman national, des statues de Jeanne d'Arc, des statues, etc., de Napoléon, Vercingétorix, qui est un personnage quand même historiquement très flou et très peu connu. Mais par contre, on en a fait des statues partout parce que, premier... leader des Français, on a complètement transposé son histoire, complètement anachroniquement. Mais du coup, c'est intéressant de se dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut mettre en valeur ? Et dans tous les cas, on est complètement d'accord que Napoléon, c'est un personnage historique majeur dans l'histoire et qu'on continue à l'étudier, qu'on continuera à l'étudier et à l'expliquer, parce que tu as raison, même si on a des parties de notre histoire qui sont effectivement pas glorieuses, c'est pas pour ça qu'il faut pas les raconter, et même j'ai envie de dire qu'il faut absolument les raconter. On sait bien à quel point ça a fait du mal de ne pas avoir pendant longtemps, par exemple après la Seconde Guerre mondiale, parlé du génocide juif, hein, qui a commencé à être évoqué publiquement et on a commencé à vraiment tout le monde en prendre conscience à partir quand même des années 70. C'est quand même extrêmement tard. C'est-à-dire que voilà, pendant longtemps, on a voulu effacer au nom de l'unité nationale. Et ça, c'est le genre de truc qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, on commence à un peu s'en rendre compte parce qu'on a du recul. Et, mais on en a encore beaucoup hein, de difficultés avec les guerres d'Algérie, par exemple. Je pense à ça qui, là, va commencer petit à petit. On va lever beaucoup d'archives, donc il va y avoir beaucoup de choses là-dessus. Mais il faut, en fait, il faut se dire, de toute façon, c'est notre passé. On n'est pas responsable de ce qu'ont fait les gens avant nous. Hein, c'est, voilà, on a beau être en France, on n'est pas responsable de ce qu'a fait Napoléon. On peut tout à fait expliquer son histoire tout en ayant un œil critique, mais il faut toujours remettre les choses dans son contexte. Et ça, c'est un truc important qu'on nous apprend en histoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger ce que quelque chose a fait, que quelqu'un a fait avec nos yeux d'aujourd'hui. Il faut toujours se remettre dans le contexte de l'époque, comprendre d'où ça venait, que ça s'inscrivait dans un mouvement global, tout comme quand on parle de Jeanne d'Arc ou de la Seconde Guerre mondiale. Il faut toujours remettre.
Donc, en gros, le message, c'est étudier sans glorifier.
Ben, c'est ce qu'il faudrait faire, normalement. Mais ce qui est difficile, ça, j'ai le soi, parce qu'on a tous, comme je disais, on ne peut pas être neutre, en fait. On a forcément nos sensibilités, on ne peut pas être complètement neutre.
Ouais.
Mais il faut essayer peut-être de dire qu'est-ce qui est intéressant, tu vois, chez Napoléon, qu'est-ce qui est intéressant à mettre en avant, qu'est-ce qu'il faut expliquer, qu'est-ce qui aujourd'hui ne serait plus acceptable chez un politique, qu'est-ce qu'on peut saluer et qu'est-ce qu'on peut critiquer. Et ça n'empêche pas de dire, oui, il a été là, il a fait ça, et ça, de toute façon, on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas l'effacer. Hein, y a aucune, et enlever une statue ne veut pas dire effacer un personnage de l'histoire, ça importe.
Et donc, de ton opinion strictement personnelle, la statue de Napoléon, elle a sa place sur le perron de l'Hôtel de Ville ou dans un musée?
Moi, très honnêtement, j'avais pas d'opinion très tranchée vis-à-vis de ça, parce que à la fois, effectivement, moi, je suis pas pour glorifier des personnages historiques. Tu vois, je comprends tout à fait dans des villes comme Bordeaux, etc. De maigrir est très important et ça a été important pour moi aussi de déboulonner ou d'enlever les noms de rues qui glorifient des personnes qui ont fait du commerce triangulaire.
Oui.
Et ça, c'est normal. Mais ce qu'a fait Napoléon n'est pas très bien non plus, hein, notamment avec le rétablissement de l'esclavage. Et c'est vrai que moi, j'aurais envie aujourd'hui, là, tu vois, de me dire, ouais, je dois, moi, si on l'aurait mis dans un musée, en soi, ça ne m'aurait pas dérangé plus que ça. Je ne me serais pas soulevée, je ne serais pas allée venir m'accrocher à la statue pour dire, non, il faut la laisser. Mais si on la laisse, je me dis, écoute, voilà, ça fait partie aussi voilà, de l'histoire de la ville, parce que bah, nous, en plus, l'histoire de la statue est liée à l'histoire de la ville, puisque Napoléon est venu à Rouen, c'est lui qui a commandé le pont Corneille, il est justement dans l'axe du pont Corneille, de la rue de la République, qui était aussi une rue commandée au 19e, etc. Il y a une histoire en soi, on va dire qu'elle ne me gêne pas, mais si elle n'était plus là, j'en serais pas forcément triste, tu vois. Donc, moi, je regardais ça un peu de loin, mais par contre, moi, ce qui m'intéressait, c'était les réactions des gens.
Justement, alors je voudrais te parler d'un sujet dont je sais qu'il te tient à cœur et quelque part, moi aussi, c'est la place des femmes et des femmes d'histoire dans l'espace public. Tu te doutais bien que j'allais pas passer à côté du sujet, mais c'est un peu la même poursuite du débat puisque on a totalement éclipsé encore une fois pendant près de 2000 ans les femmes d'histoire. Est-ce que tu penses qu'à l'avenir, par exemple, je prends un cas, par exemple le cas Simone Veil, qui est peut-être le cas plus marquant, à mon sens, j'en oublie peut-être, hein, mais je vais prendre ce cas-là. On considère que pour devenir un personnage historique, faut plusieurs siècles, en général. Est-ce que tu penses que, à un moment donné, quelqu'un comme Simone Veil ou Gisèle Halimi, la même époque, ont vocation à devenir des personnages historiques et ont vocation, en fait, à dépasser les oppositions naturelles, religieuses, en fait, qui découlent fait que la place des femmes a été longtemps niée dans la société.
Moi, je suis plutôt optimiste par rapport à ça, très honnêtement, parce que même si on voit que c'est timide, en France, on a quand même maintenant de plus en plus aussi de les gender studies, hein, qui sont nés dans le monde anglo-saxon, qui viennent en France. Et honnêtement, je vous invite à les regarder, mais en termes de littérature historique et féministe, on a de plus en plus d'ouvrages qui sortent extrêmement passionnants. Sur les femmes justement qui ont été oubliées dans l'histoire, hein. J'ai quelques noms qui m'échappent à l'esprit, mais si tu veux, je pourrais t'en envoyer si tu veux donner quelques références.
Ah, mais je pourrais donner quelques références à la fin, en conclusion, quand moi je rajouterais quelque chose, j'en serais ravi.
Et ben, je pourrais, parce qu'il y a vraiment des ouvrages passionnants qui ont été faits, mais tu vois, c'est extrêmement récent, c'est vraiment même rien que là, ces 5 dernières années. Et on est justement maintenant dans un monde où je pense que bah, déjà le féminisme heureusement prend un peu d'ampleur. Et dans le monde de l'histoire, moi j'ai eu de la chance de suivre des cours sur l'histoire des femmes, l'histoire du genre, d'avoir des profs qui étaient extrêmement investis là-dedans sur le fait de visibiliser enfin ces femmes-là. Et du coup, j'ai quand même plutôt espoir que ces femmes qu'ont combattu, ou ces femmes aussi qui ont fait des découvertes scientifiques, voilà, toutes les femmes qui ont eu extrêmement d'importance et qui ont souvent été complètement oubliées, moi, je pense qu'elles vont de plus en plus être visibilisées, même si c'est un énorme travail et qu'on a un gros chantier, mais c'est en train de bouger.
On rappellera, je vais quand même le rappeler parce que c'est très important, que les femmes qui étaient connues en tant qu'autrices ou chimistes, que sais-je encore, qui ont accédé à une notoriété, l'ont fait parce qu'elles prenaient des noms masculins. Pensez à George Sand, par exemple, qui en réalité s'appelle Aurore Dupin, et qui, moi, souvent, on arrive encore à me sortir que George Sand était un homme. Et non.
Bah non. Leur alerte, c'était une femme.
Ton personnage historique féminin préféré?
Ah, c'est pas facile ça.
Tu t'as dit que c'était simple, mes inter.
Oui, c'est vrai. Question pas simple.
Connu ou pas, hein.
J'ai pas spécialement de grosse fascination pour un personnage en particulier. Non, bah en fait, moi, de toute façon, j'ai été aussi pas mal bifurquée par, enfin, je veux dire, redirigée par ce que j'ai pu étudier. Et moi, j'ai tellement la tête dans Jeanne d'Arc, tu peux l'imaginer, que forcément, c'est une femme dont je parle le plus. Et en fait, qui est beaucoup plus intéressant que ce que je pensais au départ. Et là aussi, tu peux le voir, c'est des fois dans le traitement qu'on fait aussi l'histoire de certaines femmes connues aussi, qui est parfois... parce que moi, Jeanne d'Arc, bon, au début, je me dis, ouais, super, je vais devoir parler de Jeanne d'Arc parce que je suis à Rouen, mais bon, tu vois, on s'en fiche un peu. Puis en fait, quand tu grattes, tu dis, mais en fait, c'est passionnant cette histoire. Et en fait, il y a plein de trucs dont on n'a jamais parlé de Jeanne d'Arc. Et on m'a jamais dit, quand elle avait fait ses interrogatoires, elle était limite en train de se foutre de la gueule de ses juges. Et que ça, c'est des archives qu'on a. Et que quand tu les lis aujourd'hui, tu te dis, waouh, j'aurais dit ça. Des trucs comme ça. Et en fait, moi, j'aime bien Jeanne d'Arc parce que justement, c'est un personnage qui est un peu, tu vois, vu un peu de manière caricaturale. Ouais, bon, c'était une jeune qui entendait des voix, qui était un peu folle, complètement extrêmement religieuse et tout. Et au final. Mais en fait, il y a des couches derrière ça et qui sont intéressantes quand tu vas les gratter. Et c'est un peu son personnage que les gens, voilà, donc connaissent pas beaucoup de choses. Mais je dirais pas c'est mon personnage préféré parce qu'en fait, je pense que j'en ai pas et j'en ai pas non plus de masculin. Je suis pas quelqu'un qui a une fascination pour des personnages. Mais je dirais que en tout cas, c'est moi aujourd'hui dans des personnages que j'aime mieux essayer d'aller décrypter peut-être.
C'est vrai que l'autre question que j'avais aussi pour toi. Alors, je n'ai plus le chiffre en tête, mais toi, je sais que tu l'as, donc tu vas nous l'ordonner. Mais je sais qu'il y a trop peu de noms de rues féminins.
Ah oui.
Rarement. J'allais dire en France, mais en France aussi, de toute façon. C'est quoi exactement le...
En fait, c'est estimé que c'est à peu près 5% des noms de rue qui sont des noms de femmes. Donc, voilà.
Et à Rouen ?
À Rouen, bah, on est à peu près sur le même constat et c'est une vingtaine de noms de rue qu'on a. J'ai galéré. J'ai été prendre la liste des noms de rue à Rouen et je les ai fait. Hein. J'ai fait toute la liste, j'ai défilé la liste à la recherche de noms féminins.
On pourrait presque les énumérer entièrement.
Carrément. Enfin, moi, j'ai une liste. Hein. Du coup, je me suis fait une liste. Et, parce que, comme tu sais, du coup, j'avais fait des vidéos autour des noms de rue de femmes. Et je pensais pas que j'allais galérer autant. Et puis, même ensuite, quand c'était des femmes, des fois, à galérer à trouver qui elles étaient. Parce que, des fois, c'est des femmes où je me suis dit, mais qui c'est que cette femme, quoi? Et, c'est un constat qui est un peu difficile.
Je voulais te parler d'un sujet dont je sais que tu n'es pas expert. Mais je voulais te demander ton avis, toi, simplement en tant que passionné d'histoire. Et pas ton avis politique sur le sujet, puisque c'est pas le sujet. Je vais te raconter une anecdote. Alors, il y en a des dizaines sur le sujet. Quand on parle tourisme, handicap et accessibilité des monuments historiques, il s'avère que dans le cadre de mon tour de France en BlaBlaCar, ça faisait des années que j'étais pas rentré dedans. Je me suis dit, je vais rentrer dans le Panthéon, à Paris. Donc, comme tu vois, c'est très bien, un monument très peu accessible. Je doute bien que moi qui n'aime pas les rampes, enfin, qui n'aime pas les endroits où il n'y a pas de rampe, etc., du coup, je suis bien servi, donc je devais demander de l'aide à du personnel pratiquement tout le temps pour descendre, etc. Quand je posais la question de savoir, mais pourquoi, pour les monuments historiques, on ne peut rien faire, ben on me dit parce que c'est classé. Et que je lance un appel, d'ailleurs, dans ce podcast, j'aimerais bien interviewer quelqu'un, mais je le dis plusieurs fois, donc je veux le dire publiquement, quelqu'un qui est d'une commission d'attribution, qui soit régionale ou nationale, aux monuments historiques, pour qu'il m'en parle. Parce que moi, on me dit, on ne peut pas retoucher quelque chose qui est classé, parce que ça pourrait dénaturer, en fait, l'aspect historique du bâtiment. Ma question est plutôt simple. En quoi mettre une rampe d'accès pour une personne à mobilité réduite, sans parler d'installer un ascenseur ou dans... Je vais pas non plus dire des bêtises et dire qu'on pourra percer. Mais en quoi mettre une rampe d'accès pour permettre à un fauteuil roulant de visiter tel ou tel monument ou une personne en mobilité réduite est-elle de nature à dénaturer un bâtiment historique?
Et ben moi, je pense que c'est surtout qu'il y a eu pendant très longtemps peut-être un peu de mauvaise foi et de pas envie de bouger. Parce que tu le sais très bien, c'est-à-dire que c'est pas des questions qu'on prenait très au sérieux auparavant. Et quand maintenant on les prend au sérieux, bah bizarrement, on arrive à mettre des rampes et des ascenseurs même dans des monuments historiques, parce qu'en réalité, tu as quand même en fait énormément de solutions qui sont possibles. Là, par exemple, je te donne un exemple, mais on est juste en face de la cathédrale, il y a le bâtiment qui est le bureau des finances, qui abrite l'office de tourisme, là, qui vient de déménager. C'est un monument du début du XVIe siècle hein, qui est classé. Pour autant, là, il y a des travaux qui sont en cours, on va tout restaurer, à l'intérieur, on va mettre un ascenseur. Au musée de l'éducation, qui est une maison du XVe siècle, il y a un ascenseur. En fait, il y a toujours des solutions quasiment pour faire. Au musée des Beaux-Arts, c'est un musée avec une entrée monumentale 19e avec des escaliers. Et ben, ils ont fait en sorte de faire une entrée par derrière où il y a, avec toute une scène de rampes et d'ascenseurs, un accès aux collections.
Mais c'est quoi alors? C'est de la flemme?
Moi, je pense que c'était en fait que pendant longtemps, on s'en fichait. C'est-à-dire qu'il y avait la flemme et attends, on va pas mettre de l'argent pour monsieur, tu vois. Et du coup, ben, je pense que l'argument du classement historique, il a bon dos en fait, il servait un peu à justifier. Alors que honnêtement, aujourd'hui, il y a plein de bâtiments. Qui peuvent le faire. J'avoue que des fois, il y en a certains, tu vois, par exemple, le gros horloge et tout. C'est vrai que des fois, tu travailles avec vraiment des tout petits espaces. Par exemple, tu peux pas monter un ascenseur extérieur, etc. Mais très honnêtement, dans énormément de bâtiments, de châteaux, d'églises et tout, tu peux mettre un truc, ça va pas complètement dénaturer.
Bah, merci de le dire.
Oui.
Non, c'est important et je pense qu'il faut dire. Pour précision à l'auditeur, je tiens à préciser qu'on va être d'accord là-dessus. On ne parle pas d'une petite église ou d'un petit château dans une toute petite commune qui n'a de toute façon pas d'argent déjà pour rénover soit le bâtiment et qu'on aimerait que ce soit déjà rénové. On parle vraiment de grandes infrastructures,
ouais.
D'institutions connues comme le Panthéon, qui est sans doute un des monuments les plus connus de Paris. Et d'ailleurs, c'est qu'il est nullement adapté aux personnes en situation de handicap. Et je dois dire que des fois, on découvre avec surprise que certaines choses sont classées. Je pense notamment... dans des débats, c'est un peu drôle de dire, mais c'est moche. Bon, enfin, je veux éviter d'être là-dedans parce que ce n'est pas des critères qui sont factuellement objectifs et j'aime le factuel. Je peux confier néanmoins ma surprise quand j'ai vu que les portes d'entrée du Guimard du métro parisien étaient classées. Et donc, qu'à ce titre, on y revient, on ne peut rien faire. On appellera que dans une architecture Guimard, je mettrai une photo. Et ça concerne en fait tout ce qui est en hauteur avec marqué métropolitain, mais que les marches, elles...
Une marche est une marche.
Une marche est une marche et il me semble peu probable que cette marche date du 19e siècle. Mais encore une fois, peut-être a-t-on preuve d'une certaine mauvaise foi, puisque justement les monuments historiques font partie des nombreuses dérogations qui sont inscrites à la loi de 2005 et on ne touche pas aux monuments historiques qui sont sous dérogation, donc celles qui ont voulu faire volontairement l'effort, ça ne leur a pas été imposé.
Oui, ben, je suis assez d'accord, quoi. C'est que c'est toujours un peu, voilà, essayer de voir en avance en seconde bonne conscience, mais on fait peut-être pas ce qu'il faut. Et je repensais juste à quelque chose parce que moi, tant qu'à faire, je te dis ce dont je connais aussi dans les musées. Là, on parlait d'accessibilité, même physique, mais il y a quand même énormément de progrès à faire en termes d'accessibilité sur tous les autres types de handicap, et ça, qui sont des choses qui ne dénaturent pas les mouvements. Mettre des signalisations avec assez de contraste, avec des caractères assez importants, mettre des panneaux en braille, des choses comme ça, bah, c'est des choses qui sont complètement possibles aujourd'hui, qui voilà, sont possibles de faire, et pourtant, c'est encore très difficile. Moi, en plus, j'ai eu cet œil-là quand je visite des endroits, des musées, des monuments, j'ai toujours un peu cet œil-là, parce que enfin, c'est des questions que je trouve extrêmement importantes, et je trouve que voilà, ça, et même ça a beau être pourtant dans certaines obligations, hein, moi, quand j'étais aux éducations, il y avait une commission qui était venue justement par rapport au handicap et en fait qui avait fait tout le tour du bâtiment pour ensuite donner un rapport pour dire bon bah voilà, ça c'est à modifier, ça c'est à modifier, etc. Mais on voyait bien que voilà, c'était à modifier, mais en soi, si tu modifies pas, il y aura aucune contrainte, rien. Donc si tu donnes ni moyen, ni ensuite derrière de punition, mais tu vois ce que je veux dire, quoi, de choses contraignantes en quelque sorte. Il y a beaucoup de gens qui vont pas avancer parce que ou de lieux qui vont pas avancer parce que ça les intéresse pas ou ça leur semble pas important, hein. Peut-être faire de l'éducation à ça, je pense, plus et pousser, je sais pas, contraindre, je sais pas quelle est la bonne solution, à rejoindre aussi, comme on parlait des femmes, on parlait voilà de la visibilisation des personnes de toutes les minorités, enfin ça c'est des choses que j'espère notre génération aura conscience. C'est le même combat exactement,
moi, ça me dérange pas de le dire. Il y a des gens qui me demandent pourquoi t'es aussi engagé pour la cause des femmes ou d'autres. Mais parce que c'est des combats, c'est les mêmes, en fait.
C'est l'intersectionnalité. C'est ce qu'on va appeler l'intersectionnalité.
C'est totalement une forme. C'est une intersectionnalité. C'est-à-dire qu'en fait, les questions, pour les raisons qui sont différentes, mais les questions qu'on te pose ou les questions qu'on t'a posées, c'est les mêmes. Combien de fois on m'a considéré, alors c'était plus quand j'étais petit, y compris dans des visites de lieux, c'est pour ça que je fais des références, on me considérait comme un bien meuble, en me disant que j'étais comme chez Ikea, bougez-le là, mettez-le là, ou à une visite de telle chose, il ne peut pas rentrer. Le fait de retirer une caractéristique humaine, comme on peut le faire pour les femmes, on les considérait encore beaucoup trop comme des objets sexuels, moi j'étais considéré comme un bien meuble. J'avais vu une interview d'Auguste Perret, qui est donc entre autres, le plus connu, l'architecte de la ville du Havre, qui disait une chose qui, de mon point de vue, est effrayant en 1951, mais qui, pour l'époque, paraissait totalement normal. C'est important de le dire, et c'est ce qu'on disait, il ne s'agit pas de nier l'importance d'Auguste Perret dans l'histoire du Havre et de la Normandie, mais de pas glorifier une personne qui disait, dans une interview, on va faire dans toutes les villes des tours de 4 étages maximum, parce que de toute façon, c'est très facile à monter, donc on n'a pas besoin d'ascenseur à mettre.
Oui, ce qu'on ne se verrait pas du tout dire aujourd'hui. Et tu vois, heureusement, c'est bien, c'est que ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent quand même, qui bougent. Mais les lieux historiques, je pense que tu as raison, ils se cachent derrière beaucoup ce truc sacré qu'on aurait sur attention, on touche pas un monument historique, on modifie rien, alors que c'est bête en fait, parce que le patrimoine c'est vivant, et si tu permets une partie de la population de ne pas y rentrer, de ne pas y accéder, quel intérêt en fait? Enfin, moi je comprends pas ces positions-là.
Mais justement, alors, c'est une autre question, mais c'est lié en fait. Les illuminations de la cathédrale, dans ce sens-là, ont été très décriées parce qu'en fait, la métropole a voulu faire preuve justement de modernisme sur un logement, en mettant des illuminations avec des éléments, on va dire, un peu kitsch, on va dire historique. Enfin, c'est du moins, ça c'est l'opinion qui en a été rapportée. J'ai pas envie spécifiquement de me positionner là-dessus. Mais justement, c'est décrié parce que vouloir, encore une fois, apporter touche actuelle, ou en tout cas plus actuelle que le XIe siècle, c'est décrié. C'est un peu le, c'est un peu la même chose. Et ton point de vue là-dessus, est-ce que t'en dirais ?
Moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est encore une fois un peu toujours élitiste d'avoir ce truc. Voilà, faut pas toucher, faut rien faire, faut. Bah oui, mais il y a plein de gens, en fait, ils ne viennent pas aller rentrer dans la cathédrale, mais par contre, tu leur dis, bah écoutez, ce soir, il y a un concert et il y a des illuminations sur la cathédrale et tout. Et bah, je pense que tu as sûrement été, tu as dû déjà constater, tu as énormément de monde qui vient regarder ça, de toutes les générations, de plein de personnes différentes et qui sont fascinées. Moi, tout l'été, j'ai fait des visites guidées et j'avais les gens qui me disaient, oh là là, moi, hier, j'ai été voir le spectacle, j'ai trouvé ça génial. Oui, t'as des personnes qui aiment le moins, qui aiment. Bon, ça, de toute façon, voilà, c'est subjectif. On a des trucs qu'on aime plus ou moins. Moi, il y a des spectacles que j'ai préférés par rapport à d'autres. Je trouve que ça, en tout cas, le truc moi que je trouve bien, c'est que ça permet un peu de s'approprier en fait le lieu, le patrimoine. Et je trouve qu'en fait, c'est ça qui nous manque et qui est super important de faire aujourd'hui. C'est de réussir en fait de s'approprier et d'arrêter d'avoir cette distance, de se dire voilà, les nuits, on n'y touche pas. Ah non, les nuits, on fait rien dessus. Pas de concert moderne dans un lieu. Faut rester que sur l'orgue et du violon. On fait pas de choses avec les enfants parce que ça fait du bruit les enfants. Tu vois, je trouve qu'il faut arrêter. Et c'est pour ça que quand on a parlé de faire le podcast ici, moi, j'avais aussi un peu ça dans l'arrière de la tête. C'était de me dire, bah, en fait, non, c'est pas irrespectueux de faire un podcast dans la cathédrale. La cathédrale, en fait, aujourd'hui, on a l'impression que c'est un lieu, faut venir, faut pas bouger, faut pas parler. Bah, en fait, non, la cathédrale, à la base, c'est un lieu de vie. On serait là, on serait au 15e siècle, ça serait bruyant de fou. La cathédrale, il y avait des gens qui passaient de partout, les gens, ils priaient à voix haute. Les gens, ils papotaient, les gens, ils travaillaient, t'avais des animaux qui étaient juste devant la porte et qui faisaient plein de bruit. Je veux dire, en fait, c'est des lieux de vie, c'est ça, lieux, si on les garde, c'est parce que c'est un témoignage de notre passé, de la vie, de nos ancêtres. Et c'est, pour moi, c'est complètement bête de vouloir figer les choses et se dire, ça bouge plus. Hop, on met pas une rampe parce qu'attention, ben en fait, non. Tu vois, faut avancer, sinon on serait encore là avec nos ruines romaines et on bougerait pas, quoi.
Surtout que, on va quand même dire que d'un point de vue purement factuel, sans rentrer dans de grands travaux, c'est pas parce que tu mets une rampe amovible qui se laisse que tu vas factuellement dénaturer quelconque monument.
C'est ça, on parle pas de casser un mur sur lequel il y aurait une fresque du 12e siècle. Hein. On parle juste de mettre des éléments qui sont amovibles. Voilà.
Dernière partie de cet entretien et des questions que je voulais aborder. Je vais aborder cette question un peu sous le ton de la blague parce que c'est un peu de l'humour aussi. Where is Brian? Il faut bien se détendre, rigoler de temps en temps. C'était comment de faire des visites guidées sous 40 degrés cet été?
C'était pas facile. Je buvais tout le temps. J'avais ma gourde et même si je faisais une heure de visite, elle y passait ma gourde. C'était difficile. En termes d'hydratation, je me suis pris quelques fois des coups de chaud où je t'avoue que j'étais pas très bien le soir. C'était pas évident, mais après, honnêtement, je vais pas me plaindre. Je suis pas maçon et y a plein de jobs beaucoup plus difficiles que moi.
C'est... Deux questions d'abonnés. Donc, merci à toutes celles et ceux qui ont bien voulu poser les questions sur Instagram. Deux questions d'abonnés. La première, c'est quelle est ta meilleure anecdote que tu as pu entendre en tant que guide ?
Alors, honnêtement, bon, t'imagines bien que j'ai pas mal de trucs. Hein. Moi, j'ai des gens qui me disent toujours des trucs fantastiques. Mais j'en ai une, écoute, qui m'est arrivée cet été et je pense à ça parce que moi, elle m'a fait beaucoup rire. C'est pour te dire à quel point, des fois, les gens sont mignons dans leurs questions. J'ai fait des visites sur un bateau, et j'en fais encore, sur la Seine. Et donc, bon, bah, c'est intéressant. Je suis avec un groupe de personnes plutôt âgées. Enfin, j'ai eu... pas si âgés que ça. Non, on va dire que c'est des jeunes seniors. Voilà, jeunes seniors. Donc, des gens qui ont complètement toute leur tête. Hein, je parle pas de... Voilà. Très sympa. On fait tout le tour, on fait le port de Rouen. On revient, donc on n'est pas encore sous le pont Flaubert, tu vois. On est en train de revenir vers la ville. Donc, c'est super parce que de loin, on a une superbe vue. Et au loin, il y a la cathédrale, il y a les bâtiments et tout. Et moi, j'ai une dame qui me dit « Mais c'est quoi ce bâtiment qui est là-bas, là, cette sorte de bâtiment tout haut, tout blanc ?» Moi, si je regarde avec elle, alors c'était pas facile parce que le bateau, dans ce sens-là, en fait, il y a la cabine du pilote qui cache un peu. Alors j'essaye de comprendre ce dont elle veut me parler. Alors moi, je pense qu'elle parle de la tour du front de scène, la seule tour qui est grande, là, oui, qui a été faite à plein
la construction. Quand on voit la description, c'est à ça que je compte.
Et moi, du coup, je me dis, bon, elle me parle de ça. De toute façon, c'est la seule tour blanche, voilà. Donc, je lui dis, bah, ça, c'est un immeuble. Du coup, je commence à faire un petit truc sur la reconstruction. Puis elle me dit, mais non, ça ressemble à une fusée. Et là, dans ma tête, je me dis, mais de quoi elle parle? Et en fait, j'essaie de regarder. Puis moi, dans ma tête, je me dis, bah, ça doit être la flèche de la cathédrale, sûrement, avec les travaux, tu vois. Donc je dis, je pense que vous parlez de la flèche de la cathédrale, là où ça fait comme une sorte de petit truc blanc dessus, parce que c'est des échafaudages, quoi. Non, c'est une fusée, mais si, regardez, et tout. Et je comprends pas, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, il y a une fusée dans la ville, quoi. Et je te le jure, on a passé au moins 6 bonnes minutes à essayer de comprendre les gens qui se disaient, non mais je vois pas de quoi elle parle et tout. Et en fait, cette fusée, c'était bien la flèche de la cathédrale. Mais elle me disait, non mais moi c'est pas possible, j'étais sûre que c'était une fusée. Mais dans la tête, je me suis dit, mais pourquoi? J'ai pas compris et j'ai trouvé ça tellement mignon parce que je me suis dit, ça c'est un truc qu'un enfant aurait pu me dire, tu vois. Et d'ailleurs, ils me disent toujours des trucs très drôles, mais ça m'a fait encore plus rire que ça vienne d'une petite dame âgée et qui me sorte qu'il y a une fusée en plein milieu de la ville, quoi. Donc voilà.
L'autre question que j'ai, alors je cite, hein, tu veux pas déménager, t'as fait le tour de Rouen là. Lille, c'est une belle destination, non?
Je sais qui c'est, du coup.
Moi pas.
Avec la ville, il s'est affiché. C'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. En plus, des fois, on me dit, est-ce que tu veux rester à Rouen? Est-ce que Rouen et tout? Moi, pour moi, j'ai pas encore fait le tour de Rouen.
Ouais.
Et j'avais eu un prof, je me rappelle, quand j'étais en master, qui disait qu'il considérait, pour bien connaître une ville, fallait au moins y vivre 10 ans, un truc comme ça. Et tu vois, là, je suis à ma 9e année à Rouen. Tu vois, j'y arrive, je suis bientôt à 10 ans, et c'est vrai qu'en fait, je pense que moi, j'apprends encore beaucoup de choses. En plus, je suis pas rouennaise d'origine, donc j'apprends beaucoup de choses encore sur la ville. Et franchement, je trouve pas que c'est un métier où tu peux te dire, vas-y, c'est bon, tous les ans, je pars dans une autre ville. Enfin, sinon, en fait, je passerais des mois à devoir m'approprier, et même, en fait, je ne m'approprierais pas la ville. Je pourrais m'approprier son histoire, ce que je pourrais apprendre factuellement, mais moi, c'est pas cas. En fait, faut pas se dire que moi, ce que je fais, c'est un cours d'histoire, en fait. Je parle aux gens, c'est du quotidien, tu vois, des choses humaines. Et ça, c'est des choses que tu peux savoir en vivant. Et moi, pour l'instant, je pense que j'ai pas encore fait le tour de Rouen. Même si je t'avoue que moi, dans le futur, je suis absolument pas con de bouger. C'est probable que je bouge un jour dans ma vie. Mais pour l'instant, la ville, elle me réserve encore pas mal de
surprises. Mais tu le verrais dans quelle ville si un jour tu devais bouger?
Je sais, honnêtement, j'ai pas d'a priori, en fait, pour l'instant. Mais j'avoue que le nord, il y a des coins sympas. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais peut-être dans le futur, c'est me rapprocher aussi de lieux plus naturels et plus ruraux. Et peut-être, pourquoi pas, du coup, être guide dans des endroits où il n'y a pas, en fait, grand-chose qui est fait. Et peut-être aider à mettre en valeur un patrimoine qui est un peu oublié.
Mais en outre, c'est justement ça qui est très intéressant, parce qu'il faut dire qu'une ville est en perpétuelle évolution. Par exemple, quand j'ai enregistré mon interview avec le maire et qu'on était dans son bureau au 108 pour enregistrer donc l'interview, il m'expliquait qu'en lieu et place du 108, avant, il y a quelques années, c'était une friche. Il n'y avait pas grand-chose, à part des conteneurs qui étaient en train de rouiller et des sols pollués. Donc, une ville évolue et on peut dire que c'est formidable. Dernière question. Quand on parle de Rouen 2028, le maire, par exemple, nous explique que c'est le fleuve qui est candidat, c'est-à-dire que c'est tout le bassin de l'axe Seine, dans la partie normande en tout cas, entre Giverny et l'estuaire du Havre, qui est candidat. Et donc qu'il s'agit d'une candidature de rassemblement autour du fleuve, et donc en quelque sorte de connecter, de rassembler les gens, de rassembler des festivals, des idées, des concerts, même d'autres choses autour du fleuve. Est-ce que toi, par exemple, tu as des idées et qu'est-ce que ça t'évoque?
Effectivement, alors rapprocher des gens du fleuve, c'est pas évident. Tu vois, moi, je te disais que je faisais des visites sur le fleuve, justement, là, cet été, par exemple. Des visites qui ont pas mal de succès. Tu vois, je pense que ça peut être des axes aussi, moi, en tant que guide et tout, aussi, de raconter l'histoire. Et c'est pour ça que quand on fait beaucoup d'histoires sur la scène, moi, je trouve ça très cohérent, cette candidature, en fait, d'intégrer Rouen dans son bassin, en fait, vraiment, qui est celui de la Seine. Parce que l'histoire de Rouen, elle serait rien si on ne serait pas là, sur la Seine, dans cette dimension entre Paris et l'estuaire. Rotomagus n'aurait jamais été fondé là non plus. Donc, il y a un sens qui est complet. Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire pour que les gens en prennent conscience de cette importance du fleuve. Il y a eu pas mal là de choses, effectivement, d'événements comme la fête du fleuve. Là, ça a été que de la deuxième édition, je crois, hein, que c'était celle-là.
C'est la deuxième.
Tu vois, c'est des petits trucs, mais je pense que c'est assez intéressant comme la fête du ventre, comme les fêtes Jeanne d'Arc. C'est pas mal comme célébration parce que je pense que ça peut permettre de remettre un petit peu le cheval. Puis le cheval, c'est l'histoire, bien entendu, mais c'est aussi l'écologie, c'est pouvoir nous rapprocher du vivant. Enfin, il y a plein de choses que tu peux aussi aborder et qui sont des questions qui intéressent toutes les générations. Et je trouve que c'est une bonne chose, mais il y a du taf.
Merci beaucoup.
Avec grand plaisir, merci de ton invitation.
T'as une actu particulière, parce qu'on va quand même le dire avant de se quitter, parce que sinon tu vas me massacrer. Que tu tiens une chaîne YouTube qui s'appelle Suivez la Guide. T'es présente sur Instagram où tu as un certain succès. T'es présente aussi sur Facebook.
C'est vrai.
C'est le réseau social qu'on a tendance à oublier. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et peut-être qu'on aura une autre occasion de pouvoir échanger.
C'est avec plaisir et bravo pour tout ce que tu fais.
Merci, ça me touche beaucoup. Merci Célestine Courbet.
Merci à toi.
Pour conclure, je voudrais remercier chaleureusement Célestine Tourté, qui est conférencière Armand, de sa gentillesse pour m'avoir accordé cet entretien. Et vous signalez également que vous pouvez retrouver Célestine sur les réseaux sociaux, Instagram à CélestineTRT, et sur la chaîne YouTube Suivez la Guide. Vous pouvez retrouver des infos absolument passionnantes sur Rouen et très instructives. Donc si vous êtes rouennais ou pas, ou normand ou pas, vous pouvez courir aller voir, ça s'appelle Suivez la Guide. Voilà, quant à moi, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux habituels que vous connaissez, Blabla Wonder et Where is Brian. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle interview. À la prochaine!